RCF.
Inspiration, Laetitia de Traverset.
Dans Inspiration, j'ai le plaisir d'accueillir le père Michel-Marie Zanotti-Zorkin. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre, chanteur, écrivain et vous nous invitez dans votre dernier ouvrage à opérer une révolution spirituelle en suivant les 13 commandements de l'urgence évangélique, ce sont vos mots. Alors dites-nous, la rencontre que vous décrivez avec un jeune dans un dîner qui vous apostrophe, a-t-elle vraiment eu lieu et a-t-elle été le déclic pour réfléchir à cette révolution spirituelle ?
Bien sûr, chère Laetitia, loin de moi l'idée d'inventer quoi que ce soit. Oui, ce jeune, je l'ai rencontré à la suite d'un mariage et tout de suite il m'a attaqué en me montrant toutes les failles de l'Église, en me montrant tout ce qui ne lui plaisait pas. Et j'ai essayé de prendre très au sérieux tout ce qu'il me disait et j'ai tenté dans ce livre de lui répondre.
Oui, en gros, il disait que l'Église avait un peu le ventre mou, c'est ça ?
Oui, le ventre mou. Et puis écoutez, finalement, il a mis le doigt sur quelque chose de très vrai. C'est que on est bien obligé de reconnaître que la pratique religieuse baisse terriblement puisqu'il n'y a que 4% en moyenne en France de pratiquants, que les baptêmes baissent aussi, que les vocations sont tout de même manquantes, même si quelques contingents se présentent ici ou là. Donc il est très certain que pour ce jeune qui sortait de centrale et qui était évidemment pris par tout son aspect de statisticien, eh bien, m'est mis sous les yeux ce tableau assez triste.
Oui, alors si on devait compter depuis le départ le nombre des apôtres, ils n'étaient pas très nombreux, je vous rappelle,
mais
le
oui,
nombre
c'est
de 12, donc on n'est quand même pas les champions du chiffre, hein, les chrétiens.
Bien sûr, et puis voyez, il a suffi de 12 hommes pour que tout s'enflamme, et puis n'oublions pas non plus que le soir du Jeudi Saint, les apôtres ont abandonné pour la plupart le Christ et malgré tout nous sommes aujourd'hui ici. Alors j'essaie pas de me rassurer en disant cela, mais même si nous ne sommes pas parfaits, il y a quand même de l'espérance à garder dans le cœur.
Vous citez André Malraux au début de votre ouvrage, je crois à une renaissance chrétienne. Qu'est-ce qu'il entend par là ou qu'est-ce que vous entendez par là ?
Eh bien, je pense que André Malraux sentait très bien que l'homme ne pouvait pas vivre sans spiritualité, sans l'idée de la transcendance. Et je pense qu'il a raison, c'est pas possible. C'est inhumain de ne pas être spirituel. Voilà ce que j'ai voulu exprimer dès le début de ce livre.
Alors, vous ne mâchez pas vos mots dans cet ouvrage. Et d'ailleurs, vous concevez ce retour au christianisme un peu comme une bataille. Vous parlez d'un plan d'attaque. Il y a un combat à mener pour vous.
Mais bien sûr, il y a un combat. Écoutez, c'est magnifique. Alors, je ne suis pas du tout un fervent de la guerre. Mais il faut quand même la conduire quand il y a des difficultés pour nous.
Oui, alors je donne votre plan d'attaque justement, qui s'adresse au pape, aux évêques, aux prêtres, aux diacres. Alors vous avez plein de bonnes idées pour chacun, on va le détailler. Et puis ensuite, vous revenez sur les 13 commandements du Christ. Alors les 13 commandements, il y en a un 13e qu'on ne connaît pas ?
Oui, bah écoutez, j'ai voulu qu'il y en ait 13, tout simplement pour que ça porte bonheur à l'Église.
Ah, c'est voilà. Cela, d'accord, je comprends bien. Alors, on va détailler tout cela. Donnons un extrait, par exemple, vous parlez des évêques et vous dites « Oui, voir un évêque arpenter les rues de sa ville, sourire aux lèvres, serrant les mains des plus éloignés, écoutant les doléances de ses diocésains, compatissant aux drames les plus secrets, embrassant les enfants, caressant la joue des vieillards, visitant les malades, confessant dans sa cathédrale, etc. J'en rêve. » Alors, vous trouvez qu'ils ne sont pas assez sur le terrain ?
Non, je n'irai pas jusque-là parce que d'abord, je n'aime pas généraliser. Il faudrait voir l'action de chaque évêque. Mais il est très certain qu'on ne peut pas se passer de cette présence paternelle au milieu de nos villes et de nos villages. Et je pense que ce qui rend populaire le christianisme, c'est tout simplement la bonté. Il ne suffit pas de donner des homélies, et je vous dis ça moi qui en fais toute la journée, il ne suffit pas d'écrire des livres, je vous le dis moi qui en écris pas mal, malheureusement il faudrait que je les vive, mais il n'empêche que rien ne vaut cette présence, ce contact, et quand un évêque est là au contact de son peuple, eh bien les fruits ne manquent pas.
Il y en a un qui a réagi d'ailleurs à vos propos dans cet ouvrage.
Oui, c'est vrai, il y a un évêque qui m'a écrit cette semaine en me disant combien il avait apprécié ces quelques conseils et je lui ai évidemment répondu que c'est facile d'en donner, mais qu'il faut évidemment, c'est plus difficile que je sois déjà moi-même ce que je dois être.
Alors, vous parlez aussi des prêtres, j'en suis un et cela tombe à pic car on ne parle bien que de ce que l'on vit. Mettons les choses à plat, nous sommes des hommes comme les autres, capables du meilleur, c'est enivrant, comme du pire, c'est atterrant. Détenteurs de la grâce du Christ, à distribuer à tout vent, c'est emballant. élu par Dieu, c'est renversant, qui ne prend pas les meilleurs, c'est détonnant, mais celui qui lui plaît, qui lui chante et qui lui va, c'est désarmant. Donc vous avez une approche du prêtre, je dirais, assez terre à terre, en disant qu'en gros, vous n'êtes pas des héros.
Exactement. Mais enfin,
c'est important de le rappeler, c'est ça ?
Oui, ce qui est important de dire, c'est que nous devons le devenir, mais que nous sommes de pauvres gens. Et je crois qu'il faut arrêter de nous mettre sur au pinacle, voyez.
Sur un piédestal, comme on dit.
Sur un piédestal, voilà, exactement. Mais en même temps, en nous soutenant dans notre mission magnifique que nous avons reçue, qui est quand même de continuer l'œuvre du Christ dans le monde. Voyez, alors, je pense que on assassine beaucoup de prêtres, ils nous plaisent pas, on les critique, on les montre du doigt, on sort les péchés de leur vie, on les manifeste aux autres, mais je crois que c'est un peu hypocrite tout ça, parce que finalement, toute la patte humaine est engluée à la fois dans le bien et dans le mal, et le prêtre n'échappe pas à la patte humaine, et je dirais même grâce à Dieu, parce qu'il ne doit pas se prendre pour le Christ, qu'il soit le pape ou qu'il soit le plus simple des prêtres, des baptisés.
Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit de sortir de soi et d'ajouter son joli timbre de voix. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, c'est à la portée de chacun, du moins de ceux qui sont humains, que de lever les yeux et de saluer bien gentiment les inconnus, les femmes et les enfants. Dans la rue.
Dans Inspiration, nous mettons nos pas dans ceux du père Michel-Marie Zanotti-Zorkin, prêtre, compositeur, chanteur et écrivain. Vous exercez votre ministère en lien avec la communauté des auxiliaires du cœur de Jésus. Vous nous invitez à suivre les 13 commandements de l'urgence évangélique pour vivre une révolution spirituelle au sein de l'Église catholique. Alors vous avez composé une chanson intitulée « Par-ci, par-là » qui illustre pour une part cette révolution spirituelle et ces 13 commandements de l'urgence évangélique que vous appelez de vos voeux dans votre nouvel ouvrage. Alors un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, c'est le béaba, c'est important cette convivialité au quotidien.
Oui, je le crois. Finalement, c'est une manière d'accueillir inconditionnellement tous ceux qui sont autour de nous et que nous n'avons pas à juger. Tout simplement, tout est là. Vous savez, c'est la gentillesse qui donne la foi.
Donc vous parlez dans cet ouvrage eh bien, de ce que l'on vit quand on est consacré. Alors ça va du pape en passant par les évêques, les diacres, les religieux, les religieuses, les séminaristes et les baptisés. D'ailleurs les baptisés, vous les comparez à des salades, 4 sortes de salades. Hein. Alors il y a la salade qui va avec eh bien, celui qui est amoureux du Christ, l'obéissant, le doctrinaire et le distant. Alors pourquoi avoir imaginé un panier à salade
pour les baptisés ? Écoutez, c'est ce qui m'est venu en moi. Écoutez, puisqu'il s'agit pour nous quand même de vivre en salade mélangée. Alors par conséquent, je les ai définis comme tels. Mais voyez, je pense que tout baptisé n'appartient pas à une seule catégorie. Nous passons d'une catégorie à l'autre. Certains jours, nous sommes des doctrinaires, d'autres jours, des obéissants. Hélas, peut-être, hein, parce que pour faire grandir les choses, il faut être aussi capable de les renverser par moments. Et c'est là tout ce sens de la révolution. Il y a aussi tous les distants, tous les révoltés, tous les indifférents. Et il était important pour moi de pouvoir les définir comme tels.
Vous passez aux 13 commandements du Christ. Alors, vous dites par exemple qu'il est important de s'immerger dans l'évangile, d'avoir un cœur à cœur avec le Christ, d'avoir confiance en Marie, d'aimer l'Église. Vous parlez de l'honnêteté, de l'amour démesuré, de la souplesse d'esprit, de la pureté du cœur, de la folie du pardon, de la générosité, du sens du beau et de l'amour de la vie. Hein, ça fait beaucoup. Un sacré programme. Alors, on va peut-être s'arrêter sur l'amour démesuré. Pas facile à une époque où eh bien, on a l'impression d'être restreint de plusieurs façons, hein, ne serait-ce qu'avec cette épidémie, d'aimer largement son prochain.
D'aimer largement son prochain, de ne pas avoir peur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas du tout m'affronter à ceux qui soutiennent ces mesures sanitaires et que je suis moi aussi. Mais tout de même, il faut une certaine liberté. Moi, je ne vis pas avec le virus, je vis avec le Christ. Et ce virus, eh bien, voilà, c'est un mauvais compagnon avec lequel je ne veux pas vivre. Et puis j'avance, et puis quand les choses sont possibles, eh bien je continue d'embrasser les uns ou les autres. Écoutez, on ne va pas s'arrêter de vivre quand même, ce serait extrêmement grave.
Tout en faisant attention évidemment pour que ça ne se propage pas, mais l'idée c'est de rester vivant et en contact les uns avec les autres, voilà. Par le cœur, par la pensée, par l'attention, c'est ça ?
Oui, par l'attention, et puis écoutez, par le bon sens aussi.
Vous parlez de l'amour de la vie. Engloutie sous un poids de problèmes, d'épreuves, d'obstacles, d'infortunes, de malchances, de drames imaginés ou réels, la vie de l'homme apparaît de profil dans un état plutôt préoccupant. Mais à la regarder de face, elle ne cesse de voir, de marcher, de parler, d'écouter, d'apprécier et d'aimer aussi, suprême privilège, les êtres croisés ou choisis et jusqu'à leur créateur. Cet amour de la vie, malgré les épreuves, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, peut-être une grâce à demander aussi.
Oui, une grâce à demander, mais à cultiver aussi en soi, en voyant aussi tout ce qui fonctionne très bien dans notre propre existence. Je suis frappé de voir à quel point nous sommes friands de tout ce qui ne va pas ici-bas. Vous voyez, toute la journée, on entend des actualités épouvantables. Très bien, d'accord, mais même l'Église parfois tombe dans le panneau. Elle ferait mieux de nous expliquer ce qu'elle fait de beau. Vous voyez, pendant ce confinement, il y a eu des actes merveilleux qui ont été réalisés par des chrétiens au sein de leur paroisse, de leur mouvement. Et malheureusement, tout cela a été englouti sous tout le reste. Vous voyez, il faut montrer le beau, mais qu'on nous montre aussi les 15 000 prêtres qui travaillent tous les jours et qui se donnent un mal fou. Vous voyez, il faut pouvoir montrer ce qu'il y a de beau dans le monde. Il n'y a que ça que nous devrions montrer.
L'immense majorité des hommes et des femmes de bonne volonté,
mais
hein, c'est
ça mais bien sûr, et vous savez, dans 2 millions d'années, si la Terre est encore là, je n'en sais rien, en tout cas nous on n'y sera plus, ce qui est clair, c'est que tous les maux qui agitent aujourd'hui le monde seront encore présents.
Oui, et vous avez cette phrase, rien n'échappe à la possibilité du beau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Exactement, si on sait regarder, si on sait contempler ce qui est autour de nous, et d'abord les êtres qui vivent près de nous, on est émerveillés par ce qu'ils sont. Je suis très frappé quand dans un premier temps, je suis amené, malgré moi, à juger une personne, alors qu'il y a un commandement de Dieu d'ailleurs qui l'interdit, mais que voulez-vous, de temps en temps, à partir de l'apparence, on est tenté de juger quelqu'un. Je suis frappé, après quelques minutes de dialogue avec lui ou avec elle, de voir à quel point cet être est magnifique et nous surprend.
Finalement, cette révolution spirituelle, elle a déjà lieu, elle est déjà en marche, Père Michel Marie Zanotti-Zorkin.
Elle est en marche et je crois qu'il faut un grand chambardement. Notamment, vous voyez, dans l'Église, puisque vous me permettez de pouvoir l'exprimer, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous entrions, nous les prêtres, dans deux dimensions très importantes. La simplification. Il faut que le chemin du Christ apparaisse comme un chemin très simple et libérant. Libérant! Et ensuite, que nous nous adaptions vraiment aux êtres.
Inspiration, RCF.
Dans Inspiration, nous évoquons votre ouvrage, Père Michel-Marie Zanotti-Zorkin, pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. Alors, vous y abordez de nombreux thèmes. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la vie des prêtres, des évêques, des baptisés, des religieux, des religieuses? Alors, revenons sur ce que vous dites à propos des baptisés. Ils ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a de plusieurs sortes, comme les salades. J'ose les classer en 4 catégories, les amoureux, les obéissants, les doctrinaires et les distants. Alors, les amoureux de Dieu ont toujours le nom du Seigneur à la bouche. Vous pensez, par exemple, aux nouveaux convertis ou aux membres des communautés charismatiques?
Très bien, mais je pense à tout homme qui aime le Christ et c'est sensationnel. Être amoureux du Christ, c'est quand même là le but.
Être amoureux du Christ, c'est-à-dire l'avoir rencontré, c'est ça au plus profond de son cœur?
L'avoir rencontré, puis essayer surtout de l'imiter, parce que tout est là, vous voyez, c'est pas tellement je t'aime, c'est plutôt je vais essayer de vivre à la manière du Christ, je vais essayer de lui ressembler, de devenir même son sosie. Et c'est possible, à condition évidemment que l'on s'attelle à son évangile.
Mais ça passe par une rencontre personnelle, ce qu'on appelle une conversion.
Oui, une conversion, un coup de foudre pour le Christ. Alors il arrive de manière très différente selon les personnes.
Vous l'avez vécu à quel âge, vous, votre coup de foudre?
Oh, écoutez-moi, c'est une vieille histoire d'amour, hein. Mais quand j'avais 8 ans, j'étais déjà convaincu que je devais devenir prêtre. Apparemment, il y a sans doute eu avec lui un contact profond.
Oui, vous aviez un charisme aussi de chanteur, donc vous auriez pu renoncer à la vocation sacerdotale, voulant plutôt embrasser la carrière d'artiste.
Oui, mais vous savez, quand Dieu vous tire par les cheveux, quand il vous tient, vous pouvez difficilement résister. Mais attention, je n'ai pas renoncé à cette autre vocation.
Donc finalement, vous avez mis votre talent au service de votre sacerdoce.
Oui, au nom du Christ, puisque c'est ce qu'il veut. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut rappeler vraiment à toute l'Église, mais il faut rappeler aussi aux hommes qui ne la connaissent pas, que le Christ veut que chacun développe tout ce qu'il est.
Donc ça ne veut pas dire sacrifier ses talents sur l'autel du Christ, au contraire.
Surtout pas. Même je pense qu'aujourd'hui, vous voyez les séminaristes qui se présentent, il faudrait tout de suite essayer de découvrir en eux ce qu'ils ont de particulier, ce qu'ils peuvent apporter à l'Église, les sortir des sentiers déjà battus.
au lieu de leur demander de laisser de côté
violon ou je ne sais quelle passion. Ce que vous faites d'ailleurs sans doute avec vos enfants, vous les aidez à être eux-mêmes.
Et à développer leurs propres talents.
Voilà, exactement.
Donc c'est ça, être amoureux du Christ, c'est être heureux en être développant heureux. Ses talents au service du Christ.
Voilà, et puis épouser complètement ses idées. Et nous, c'est ce que nous devons faire, rendre heureux les personnes qui sont autour de nous. Tout de suite, pas demain matin, tout de suite.
Vous parlez aussi des obéissants qui sont loin d'être des amoureux. Leur attachement au Christ n'est pas d'ordre nuptial, mais d'ordre féodal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Bien, ce sont des gens qui obéissent parfaitement, mais je vous ai dit, de temps en temps, nous leur ressemblons. Donc on va bien à la messe, on fait ce qu'il faut, on se confesse, on est généreux, on ouvre la table à la maison pour que le prêtre puisse venir y manger, mais tout cela est absolument parfait. Mais évidemment, à cette obéissance, il faut un peu de liberté.
Donc ça veut dire accepter de temps en temps de se remettre un peu en cause.
Oui, se remettre en cause, même faire le grand chambardement s'il le faut, voyez, ne pas être simplement dans l'accomplissement de ce qu'on doit vivre, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, voyez, même je repense à Jean Cocteau en vous disant cela, il disait que la désobéissance était le moteur de la création. Mais c'est pas faux, il faut désobéir à un certain académisme pour découvrir autre chose. Donc de temps en temps, je le dis, mais avec beaucoup de respect, mais je suis sûr que vous me comprenez, il faut désobéir.
Personne n'est irréprochable, c'est ça ? Il ne faut pas vouloir être un perfectionniste de Dieu ?
Surtout pas. D'ailleurs, personne normalement n'en a les moyens. Alors se déclarer parfait, c'est une bêtise.
Même les saints ne sont pas parfaits.
Mais pas du tout. Et si on allait chercher dans leur procès en canonisation, je suis sûr qu'on aurait de grandes surprises. Parmi tous ceux qui sont canonisés, il y en a beaucoup qui ont fait des grosses bêtises. Mais voilà, on avait un autre regard sur l'homme.
Vous parlez aussi des doctrinaires qui apparaissent comme les plus fidèles d'entre les fidèles, mais en fait, ils ne sont que les fidèles de leur propre synthèse, héritée de leur structure d'esprit, de leur éducation ou de leur peur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien, de temps en temps, on fait passer nos idées en prétendant qu'elles sont celles du Christ. Alors qu'en fait, on est pour une vision de société qui peut être même extrêmement bonne. Il y a des conventions qui sont extrêmement valables, mais qui ne viennent pas du Christ.
Du coup, quelle est l'invitation ?
Ben, l'invitation, c'est essayer de se libérer l'esprit de tout cela et de remettre bien les choses à leur place et d'adhérer profondément à ce que le Christ dit et à ce qu'il ne dit pas. Parce que ça aussi, c'est très important. Lorsqu'il ne s'exprime pas sur quelque chose, on ne va pas s'exprimer à sa place.
Oui, vous dites que ces prétendus avant-gardistes ne sont pas moins menaçants pour la sagesse du Christ.
Oui, parce que si vous voulez, il y a deux types de doctrinaires. Vous avez le doctrinaire très traditionnel qui ne bouge pas de sa vision, si vous voulez, mais encore une fois qui n'est pas hérité seulement du Christ. Mais on ne va pas non plus les critiquer parce qu'ils portent le balancier aussi parfois dans l'autre sens et ça ne fait pas de mal à notre société comme à l'Église. Mais dans les doctrinaires, vous avez aussi des avant-gardistes qui cassent tout, qui cassent la liturgie. Ils sont de l'autre côté, mais ils ressentent aux autres doctrinaires. Et ils peuvent faire aussi beaucoup de mal.
Alors on est d'accord que le but n'est pas de montrer du doigt telle ou telle personne, mais de se demander si on n'a pas, par moment, telle ou telle tendance.
Mais exactement, puis de se corriger tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, nous sommes tous arrangés dans toutes ces catégories. Il y a donc des efforts à faire. Et pour pouvoir bien les réaliser, je pense que ça n'est pas possible sans une immersion quotidienne, régulière, avec le Saint-Évangile.
Inspiration, Laetitia de Traverset.
Dans Inspiration, nous explorons la révolution spirituelle que vous proposez, Michel-Marie Zanotti-Zorkin, basée sur 13 commandements de l'urgence évangélique. Alors, vous parlez des baptisés en disant qu'il y a des amoureux du Christ, des obéissants, des doctrinaires et aussi des distants. Les distants sont des millions à considérer comme des enfants de Dieu coupés apparemment de la source, mais qui boivent plus qu'on ne le croit de grandes gorgées de grâce par des canaux que nous ignorons. Expliquez-nous.
Eh bien, le bon Dieu n'abandonne jamais sa création. Et parmi tous ces distants, d'abord, il faut rappeler qu'il y a des millions de baptisés, donc des êtres qui portent en eux la grâce du Christ, c'est-à-dire qui sont étreints par lui. Alors, peut-être que cette grâce ne peut pas se déployer puisqu'ils vivent en dehors des sacrements, mais, Dieu les rejoint, Dieu les atteint et leur permet même de faire preuve d'un amour qui lui ressemble. Donc tous ces distants, je pense, il faut absolument s'en occuper. C'est là, je crois, même le terreau que nous devons privilégier. Les autres sont déjà réunis dans les églises, c'est parfait, ils sont déjà dans le bercail. Vous savez comment le Christ est parti à la recherche de la brebis perdue. Il a tout abandonné, il a laissé la communauté, il ne faut pas l'oublier, pour aller chercher cette petite brebis et la porter, l'embrasser, la porter sur ses épaules. Alors comment aller la chercher? Parce que ça, évidemment, c'est difficile.
Sortir des églises?
Mais oui, sortir
aller
des églises.
À la rencontre.
Mais oui, et puis avoir la vie de tout le monde, aller au cinéma, aller au théâtre, autant que, quand ça sera possible, encore davantage. Mais voyez, mais vivre, remplir les cafés, aller boire un verre avec un tel, surtout pas de rester dans ce monde clos, chrétien. Bien sûr, on a besoin parfois de se sentir avec ceux qui nous ressemblent, c'est tout à fait normal.
Mais ne pas faire que de l'entre-soi,
mais
comme on
surtout
dit.
Pas, surtout pas. Il faut aller vers les gens, puis les trouver, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup plus beaux qu'ils ne sont. Mais les gens sont magnifiques, ils se donnent un mal fou même pour leurs enfants. Ils ont du mal à lutter contre la technologie qui les envahit, contre beaucoup de choses, mais ils sont bons. Et moi, j'aime cette humanité qui vient de Dieu et qui va retourner vers elle.
Oui.
Mais je vais vous dire, cette humanité, elle n'est sensible qu'à une seule chose, à l'amour inconditionnel. Et il faut donc qu'on offre cet amour inconditionnel sans juger aucun parcours humain. D'ailleurs, ça, c'est ce que le Christ nous a demandé.
Pas de jugement. Et ça, c'est toujours une tentation humaine, malheureusement.
C'est très, très difficile. Je dirais même que c'est le sommet de la vie spirituelle que de pouvoir l'atteindre. Mais il s'agit de ne juger personne. Si on arrive à cela, vous savez, la petite mamie, là, qui est là, qui accueille son petit qui sort de prison. Bien sûr, elle est énervée, elle est révoltée, mais elle finit par lui préparer un bon plat. Et puis, celle-là, elle ira directement au paradis parce qu'elle ressemble à Dieu. Et voyez, même chez le criminel, il y a de bons côtés.
Oui, alors,
c'est ce que nous devons essayer
ça,
de vivre.
C'est un des commandements d'ailleurs que vous prenez, hein, ne jugez pas. Alors vous avez l'occasion de rencontrer de très nombreuses personnes qui viennent vous voir pour des entretiens spirituels. Tous ces parcours qui peuvent être cabossés en apparence et en surface recèlent des trésors.
Oui, recèlent des trésors, mais voyez, malheureusement, ce commandement, il faut surtout le dire aux chrétiens. Parce que assez facilement, on juge. Et quand je dis ça, je fais mon mea culpa. Donc, il faut qu'on soit très, très vigilant sur ce plan-là. Il faut un grand accueil. On va dire, mais alors, vous bénissez tout. Non, on ne bénit pas, mais on accueille la personne qui est plus grande que les actes qu'elle a pu poser ou que les idées qui peuvent l'habiter. Vous voyez, essayons de comprendre les chemins de chacun.
Oui, alors vous prenez aussi l'immersion dans l'Évangile, c'est le premier d'ailleurs de vos 13 commandements du Christ. Donc vous dites, eh bien, au nombre de 4, ces évangiles racontent à peu près la même chose, mais chacun selon l'esprit de son auteur. Bien qu'un seul pourrait suffire à donner le rythme de la marche au comportement chrétien, il serait dommageable de faire l'économie des 3 autres. Et vous dites que ce sont 4 chefs-d'œuvre qui offrent une série de clichés, de faces de profil à l'arrêt en mouvement du Christ, naissant, travaillant, parlant, guérissant, aimant, souffrant, mourant, ressuscitant. Vous trouvez qu'on ne s'immerge pas assez dans l'Évangile aujourd'hui ?
Je pense, parce que sinon les résultats seraient plus grands. Évidemment, nous avons la pensée du Christ, c'est merveilleux. Mais il faut aussi le regarder vivre, le regarder marcher, le regarder aimer, le regarder souffrir, le regarder mourir. Il vient sur la terre nous apprendre à vivre. Parce que, voyez, même dans le credo, c'est frappant, on dit toujours « pour nous et pour notre salut ». Voilà. Eh bien, ce « pour nous », il faut continuer la phrase, « pour nous apprendre à vivre ». Il est là pour cela. Donc, on doit l'accueillir très profondément et essayer, encore une fois, de l'imiter. Tout est là. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de son Père, elle est tout entière contenue dans les préceptes évangéliques.
Oui, de l'imiter, pas dans le sens de l'imitation, mais de imiter, hein,
oui.
C'est ça. Voilà, donc vous dites « Ce texte doit rester ouvert sur une table de la maison, crayonné de tous côtés, les pages en péril de plus en plus décollées de la tranche, la reliure avachie, autant de signes de décrépitude qui attestent de la vitalité du livre, c'est-à-dire de la Bible ?»
Oui, mais au moins de l'Évangile. Je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une période compliquée où la foi disparaît, il faut dire les choses comme elles sont, où la transcendance est de plus en plus évacuée de l'esprit humain, il faut s'en tenir à l'Évangile. Et aujourd'hui, voyez, même le catéchisme, j'en suis sûr, il faudrait commencer par Jésus. Le faire aimer, le faire découvrir, envoyer des pétales de rose au Saint-Sacrement, prendre Marie dans ses bras, vivre dans cette intimité avec ce monde surnaturel, et je vous assure que la foi repartirait sur la terre.
Dans Inspiration, nous évoquons la révolution spirituelle que vous proposez, Michel Lemarie et Zanotti Zorkin. Vous qui êtes prêtre, vous exercez votre ministère auprès de la communauté des auxiliaires du cœur de Jésus à Montmartre. Vous recevez d'ailleurs toutes sortes de personnes qui désirent rencontrer le Christ. Vous êtes aussi chanteur, compositeur. Dans votre ouvrage, vous évoquez un plan d'attaque, comment finalement réformer l'Église de l'intérieur avec 13 commandements et dont la folie du pardon. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est le grand moyen que le Christ nous a laissé pour régler tous les litiges entre les hommes. Voilà ce que je dis, voyez, c'est tout simple. On voit bien que le Christ, durant sa vie, quand il a été affronté à des gens qui effectivement ont été des coupables et qui gravement d'ailleurs ont agi contre le bien des personnes, on voit bien comment il s'y prend. Il accorde son pardon et il considère que ce pardon qui descend de son Père, qui le traverse, qui traverse toute son humanité, est capable de faire repartir la personne et de la renouveler et je dirais même de la recréer.
Oui, alors on est bien d'accord que dans certains cas, le pardon humain est impossible.
C'est très compliqué, mais je vais vous dire, je pense que nous avons une porte d'issue que le Christ a indiquée aussi. Il y a tout dans l'Évangile. Lorsqu'il est sur la croix, vous aurez remarqué qu'il ne dit pas « Je vous pardonne à vous qui ne savez pas ce que vous faites », il dit « Pardonne-leur ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je pense que quand on n'est pas capable de pardonner, si notre foi est profonde, il faut aller jusqu'à dire à Dieu notre Père, pardonne-lui, elle ne sait pas, il ne sait pas ce qu'il a fait, ce qu'elle a dit.
Donc quand on sent que justement on est limité, qu'on ne peut pas y arriver, on peut confier à Dieu cette démarche de pardon.
Voilà, et lui la fera, parce que c'est son enfant bien-aimé, qui est là, coupable, mais qui reste son enfant bien-aimé. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, il faut quand même que l'Église rappelle que c'est, quand je dis l'Église, c'est-à-dire tous les baptisés, que nous rappelions autour de nous que le pardon est le grand moyen que le Christ nous a laissé.
Oui, alors vous dites, le Christ ne s'est jamais attardé sur le péché commis, si ce n'est pour l'arracher du cœur humain. Sa puissance de pardon éclate en chacun de ses actes avec une ampleur qui semble, je l'avoue, minimiser les délits commis et innocenter les coupables. Bon, mais encore une fois, c'est le Christ.
Oui, mais nous devons lui ressembler, nous continuons son œuvre. Mais je suis sûr que c'est ce que vous faites, ce que toutes les bonnes mères de famille font lorsque leurs fils ou leurs filles ont fait n'importe quoi. Tout de suite, ils ne sont pas du côté de la justice. Ils vont essayer de descendre profond, d'arranger les choses, et puis d'accorder ce pardon et peut-être de le recevoir de leur part. Nous sommes des pères et des mères de famille, nous les prêtres, les baptisés, nous tous, nous sommes là pour donner de l'amour, on n'est pas là pour condamner. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver, pour sauver ce qui est perdu. Donc je crois que notre tâche, c'est de nous polariser sur ce qui est perdu et de sauver cet être. Il n'y a rien de plus beau d'ailleurs que de soulever un être du mal qu'il a pu commettre et de lui dire « Mais mon chéri, tu vas pouvoir repartir et faire quelque chose de magnifique. » Vous voyez, à force de fustiger le péché, on écrabouille le bonhomme.
Oui, et vous dites « Maintenant, si le pardon s'avérait impossible en raison de l'ignominie perpétrée, que les frères ennemis deviennent au moins des ennemis frères. »
Oui. Vous voyez, on garde quand même une estime.
Et
on garde
vous dites, c'est le bon conseil que le penseur juif Emmanuel Berl nous a légué après Auschwitz.
Oui, vous voyez, lui, c'est ce qu'il préconisait. Voilà, au moins avoir des ennemis frères, mais pas des frères ennemis. Donc, je pense qu'il y a là une grande sagesse. Je rappelle que nous avons quand même la responsabilité sur la terre de faire vivre l'amour, et l'amour doit aller jusqu'au pardon. Oui, vous avez raison de dire qu'il est difficile à donner dans certains cas, mais nous devons, là encore, faire une révolution intérieure, un grand chambardement, nous dépasser et accorder notre pardon à qui ne le mérite pas. Parce que je vais vous dire une chose, quand nous allons arriver au bout de notre propre existence et qu'on va se pointer devant le Christ, vous allez voir ses grands bras ouverts, il va pas nous poser beaucoup de questions, hein. Ça c'est sûr et certain, il lira directement dans notre âme et nous on sera tellement heureux d'être en sa présence, mais je peux vous dire qu'on regrettera, nous, ce qu'on a dit du mal des autres. Parce que, encore une fois, c'est une bêtise, nous ne nous regardons pas assez dans un miroir pour voir que nous sommes imparfaits et nous nous permettons de juger les autres.
Et vous terminez votre ouvrage, Père Zanotti Zorkin, avec ces mots: que Dieu bénisse nos résolutions, pardon, je me suis trompé, nos révolutions.
Bien voilà.
Alors, révolution, c'est pas un mot qui est trop fort, non?
C'est un mot qui peut apparaître trop fort, surtout dans notre culture française, mais je ne fais aucune référence ni à Saint-Just, ni à Robespierre. Ce sont pas des êtres que je considère vraiment être présents dans une grande lumière, mais je continue quand même de les porter. Il faut continuer de prier pour eux. Mais la révolution, c'est tout simplement une prise de conscience.
Révolution intérieure plutôt ?
Oui, une révolution intérieure, mais une prise de conscience aussi de tout ce qui, dans nos systèmes, dans nos manières de faire, ne marche pas. Il faut modifier sur le plus concret.
Et on en saura plus en se plongeant dans votre ouvrage « Pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique ». C'est donc le titre de l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Artege Bonvent, en chanson et aussi en écoute et proximité avec les gens.
Merci chère Laetitia de m'avoir donné la chance de pouvoir exprimer ce que je porte en moi.
Merci.